Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous parle chaque semaine d'économie, parfois d'économie du sport, en l'occurrence en Afrique. Grosse ambiance il y a quelques jours au Caire, le club égyptien de Zamalek face au Sud-Soudanais de Cobra Sport. C'était la deuxième phase de la Basketball Africa League, cette nouvelle compétition lancée en 2020 sur le modèle de la NBA américaine. Objectif très clair de son patron Amadou Gallofal, faire progresser économiquement le basket sur le continent.
On est des perfectionnistes, on a de grosses ambitions, il y a de l'intérêt sur ce produit. Cet intérêt ne fera que continuer à grandir parce que nous avons énormément de talent en Afrique.
Des ambitions économiques pour le basket en Afrique et pour le sport plus généralement. Le football accapare les investissements, les grands projets, mais d'autres disciplines veulent leur part du gâteau. Quel est le potentiel exact? Le sport, c'est déjà 2% du PIB dans le monde, croissance annuelle de 5%. Quels sont les freins? Quelle finalité en termes de développement et d'inclusion sociale? Nous avons trois quarts d'heure pour explorer ce vaste sujet qui nous fera voyager du Sénégal au Rwanda en passant par le Cameroun. Tout cela avec un expert que je présente. Bonjour Morsen Abdel Fattah.
Bonjour Bruno.
Vous êtes directeur général de l'African Sport and Creative Institute. On va parler en français, l'Institut pour les sports et les industries créatives en Afrique, un institut à but non lucratif dont la vision est de faire du sport et des industries créatives des vecteurs de développement socio-économique, de la recherche, de la formation, du conseil, et vous avez coordonné l'écriture d'un ouvrage très riche qui s'intitule tout simplement « Économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités » paru aux éditions Economica. En fin d'émission, tout autre sujet, coup de projecteur sur la cybersécurité en Afrique, une priorité pour de plus en plus d'entreprises. Le Cyber Africa Forum se tient à Abidjan les 9 et 10 mai prochains. Nous parlerons avec son organisateur. Comme d'habitude, vous pourrez partager cette émission sur nos réseaux sociaux via notre compte Facebook RFI Echo, RFI Echo aussi du côté de Twitter. Nous attendons vos messages, vos commentaires. Bienvenue à certains de nos nouveaux amis, Aliou Bamba de Louis Wanda, Adam Moussa de Bangui, Bilali Diko de Bamako. Et avant d'entrer dans la discussion, écoutons brièvement le patron de la NBA, le championnat nord-américain de basket. C'était en 2019, au moment de lancer officiellement la Basketball Africa League, Adam Silver insistait sur les liens qui se sont construits ces dernières décennies des deux côtés de l'Atlantique.
C'est un moment formidable pour moi de voir l'intérêt pour la NBA en Afrique. Depuis 1984, l'arrivée d'Hakim Olajuwon, c'est incroyable de penser qu'aujourd'hui nous avons presque 40 joueurs qui sont nés en Afrique ou dont les parents sont nés en Afrique. Tellement de talent, c'est tellement intéressant.
Hakim Olajuwon, le premier Africain en NBA, a fait des émules, en effet, ce qui a fait grandir l'intérêt pour le basket sur le continent. Mohsen Abdel Fattah, cette Ligue des champions africaine qui se tient en ce moment, tous les codes américains sont là, reproduits. C'est là la recette pour faire de l'argent ?
Alors, ce que j'ai aimé dans le morceau que vous venez de passer, c'est que ça montre un petit peu une vision. C'est-à-dire qu'on parle pas seulement de sport, mais on parle de sport dans un monde par rapport aux grands défis et aux grandes opportunités. Et il a mentionné la croissance de l'Afrique, la croissance démographique, ce que Tidiane Thiam a appelé chez vous le capital africain, et comment est-ce qu'à partir du sport, on peut profiter de cette opportunité. La NBA est une ligue très particulière, puisque c'est une ligue américaine, c'est-à-dire une ligue fermée, très différente des ligues que nous connaissons en Europe, par exemple, qui a un modèle économique très clair, qui est de proposer un produit de qualité et permettre un maximum d'interaction entre les fans et le produit. Avec la balle, justement, c'est la partie qui va être en quelque sorte très nouvelle pour l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, le sport en Afrique est plutôt considéré soit par les dirigeants politiques comme une opportunité d'améliorer leur image, soit par les pratiquants, bah, juste de s'amuser, mais pas vraiment avec une vision à long terme. Et c'est ce que propose aujourd'hui la NBA en Afrique.
Hossein Abdel Fattah, qu'est-ce qui peut être transposé de la NBA américaine vers le sport en Afrique ?
Alors, je dirais que ce que je trouve, en tout cas, de vraiment intéressant dans le modèle de la NBA en Afrique, ce n'est pas juste l'aspect sport d'élite, mais c'est l'articulation entre sport de masse, c'est-à-dire sport pour tous, et sport d'élite. Qu'est-ce que j'entends par là ? La NBA est présente en Afrique depuis déjà 20 ans. Et la NBA avait une vision claire, c'est de faire du basket le sport numéro 1 en Afrique. Mmh. Vous l'avez dit, c'est difficile aujourd'hui avec la présence du football. Et ils ont fait plusieurs étapes. Ils se sont concentrés au début sur des championnats scolaires, promouvoir le basket à des filles et des garçons le plus grand nombre à travers le continent. Ils ont vu un potentiel, puis ils ont lancé une académie au Sénégal pour détecter et former les joueurs à haut potentiel avant de les envoyer en NBA. Et il a mentionné le chiffre, je crois, d'une quarantaine de joueurs africains en NBA, sans compter ceux qui sont d'origine africaine. Et ça, c'est le modèle qu'ils ont adopté sur tous les continents. Mais par contre, ils ont vu que le talent était tellement exceptionnel en Afrique et avec la croissance de la population, qu'il avait l'opportunité de créer un produit NBA en Afrique, ce qui n'a jamais été fait auparavant.
Une ligue d'élite qui n'existe même pas véritablement en Europe ou en Asie.
Voilà, et la NBA a eu l'opportunité d'investir en Chine, en Amérique du Sud, en Europe, ne l'a pas fait. Et en Afrique, elle est venue donc avec ses partenaires habituels, donc des grands équipementiers comme Nike ou la marque Jordan, par exemple, mais aussi en s'associant à la Fédération internationale de basket, la FIBA, et des acteurs locaux, notamment Rwandair, par exemple la compagnie aérienne rwandaise, RDB, Rwanda Development Board, donc des organisations africaines aussi, pour créer un produit qui va maximiser le potentiel des athlètes africains, mais surtout mettre l'Afrique sur la carte en termes de destination touristique, destination de consommation pour les fans du monde entier qui recherchent des produits et des services.
Donc vous diriez, c'est le dernier étage de la fusée, créer une industrie, développer du merchandising, vendre des maillots, vendre des produits, des ballons de basket, etc.
Exactement, avec les droits, bien sûr, les droits télé qui vont du coup devenir très importants. Et cette boucle tourne autour du produit de qualité et considère le sport comme un produit commercial et pas juste comme un service rendu à la société.
On en est au tout début de cette ligue africaine de basket. Barack Obama, l'ancien président américain, est lui-même partenaire de la NBA en Afrique. Il le disait il y a quelque temps, il se mettait en scène dans une vidéo.
It's the reason why the NBA has always been such a great ambassador for the United States. Using the game to create deeper connections around the world. And it's why I'm so excited to support NBA Africa. In Africa, basketball has the power to promote opportunity, wellness, equality, and empowerment across the continent.
Le basket, le sport pour promouvoir le bien-être, l'égalité, offrir des opportunités, une forme d'autonomie aux Africains. C'est très américain, ça, avec la musique derrière Barack Obama.
C'est vrai que c'est joliment dit. Mais alors, d'ailleurs, le président Obama est actionnaire, il n'est pas juste partenaire. Et ça, c'est intéressant, puisque finalement, après seulement une année de vie, la NBA en a fait une filiale de cette Basketball Africa League et a réussi à lever $1 milliard de capital. C'est quand même extraordinaire de la part, bien sûr, de joueurs, anciens joueurs, de personnalités comme le président Obama, mais aussi d'hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires africains, pour vraiment montrer que c'est un produit qui a vraiment du potentiel. Et peut-être un deuxième élément qui est intéressant, qu'on va peut-être creuser tout à l'heure, mais oui, c'est un produit américain, la NBA, mais ils sont quand même très conscients de la culture africaine et de l'attractivité de la culture africaine. Ce serait intéressant de discuter à quel point ils l'intègrent dans le produit NBA en Afrique.
Et pour réussir, il faut des influenceurs. Et Barack Obama en est un. C'est le personnage idéal. Une famille d'origine kényane, effectivement, venue aux États-Unis. Un joueur de basket lui-même, c'était le personnage idéal.
Exactement.
Alors, pour illustrer ce mouvement vers un sport plus professionnel en Afrique, je propose que nous allions au Sénégal. C'est donc là qu'a été organisée la première phase de la Basketball Africa League, la BAL. Un écosystème est en train de se structurer. Notre correspondante à Dakar, Théa Olivier, est allée à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce sport.
Habillées de chasubles rose fluo, les 15 basketteuses de l'équipe ASC Ville de Dakar virevoltent un ballon orange au bout du bras. Deux fois par jour, elles s'entraînent au soleil sur ce terrain extérieur en plein cœur de la capitale sénégalaise. Fatou Kinekan, 34 ans, est la capitaine de l'équipe féminine. Après 9 ans de carrière professionnelle en Europe, elle est revenue jouer au Sénégal.
On se considère comme une équipe professionnelle et en plus comme une famille. Parce que c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Et c'est pour ça qu'on est payé à la fin du mois. Notre génération, on a la chance. Parce que beaucoup de grandes joueuses qui étaient là n'ont pas eu cette chance. Mais nous, on a les salaires, on a l'entourage qu'il faut, l'encadrement qu'il faut.
L'équipe féminine de l'ASC Dakar a remporté le Grand Chelem, c'est-à-dire les trois grandes compétitions du Sénégal. Une progression qui ravit Mamadou Moustapha Gueye, directeur technique de l'équipe dakaroise, mais aussi au niveau national. Il s'inquiète tout de même des départs des joueurs vers l'étranger.
Chaque année, on enregistre beaucoup de départs vers l'Europe, vers les États-Unis et maintenant vers le Japon et la Chine. Donc le produit sénégalais est vendable. Les départs, c'est quelque chose qui nous pose un problème qu'on ne peut pas jusqu'à présent arrêter. Mais il faut le ralentir un peu en dotant les clubs d'un peu plus de moyens pour retenir les joueurs au Sénégal. Il faut mettre une politique sportive et financière qui puisse répondre aux exigences des joueurs.
À l'ASC de Dakar, 8 joueuses sont par exemple parties en France l'année dernière. Alors que dans les textes, le basketball sénégalais a un statut amateur, Ibrahim Ayat Madio, président de la section basket de l'ASC Dakar, considère pourtant que dans la pratique, son club, comme d'autres, fonctionne de façon professionnelle. Les joueurs seniors perçoivent un salaire, des primes s'ajoutent pour les compétitions et sont prises en charge l'hébergement et le transport des joueurs.
Malheureusement, notre statut d'amateur ne nous a pas permis d'avoir un retour sur investissement. Donc c'est ça qui bloque un peu le développement de notre basketball. Il faut aujourd'hui quand même réformer tout pour qu'on puisse aller vers un championnat professionnel. On a essayé quand même d'investir un peu chez les garçons parce qu'au moins avec la Basketball African League, c'est une débouchée au niveau africain et donc ça devient intéressant aussi d'investir chez les garçons.
Dans la région de Thiès, à 70 km de Dakar, la CID Academy travaille depuis 20 ans à créer une pépinière du basketball sénégalais avec une cinquantaine d'étudiants athlètes. Joseph Lopez est le président de cette structure.
Le sport, c'est la concentration et c'est l'effort. Tout ce qu'on apprend sur un terrain de basket, on peut le retrouver dans un monde professionnel. Avec la balle, les enfants peuvent rêver. Ils n'ont pas allé aux États-Unis, en Europe, pour jouer professionnel. Ils peuvent rester au Sénégal, intégrer les clubs locaux. Et une fois que le club local est champion du Sénégal, il va représenter le Sénégal à la balle. Et là, ils pourraient jouer professionnel et gagner de l'argent.
Même si tous les jeunes basketteurs ne pourront pas atteindre un niveau professionnel, ce sport reste un levier de développement économique, assure Amadou Galofal, président de la Basket Africa League.
Le sport contribue pour des milliards et des milliards de dollars à travers le monde, mais surtout dans les pays de l'Ouest. C'est un très faible pourcentage jusqu'ici pour l'Afrique. On veut créer un environnement complètement professionnel. Du manager général à celui qui fait le marketing, ce n'est pas juste l'étude du sport. Pour chaque équipe, on veut les meilleurs spécialistes en finance, les meilleurs comptables, les meilleurs avocats, etc.
Après la première phase ici à Dakar, puis la deuxième en Égypte, les phases finales de la Basketball Africa League auront lieu en mai au Rwanda.
Le reportage de Théa Olivier au Sénégal. Mohsen Abdel Fattah, on a entendu pas mal de choses dans ce reportage. Passer du statut amateur au statut professionnel, une vraie préoccupation pour des clubs, on va dire, en devenir, qui ont envie d'évoluer. C'est ça une des clés de la réussite ?
Alors, c'est assez réactif, finalement. C'est un petit peu ce qu'a dit le monsieur au tout début, c'est-à-dire que les talents partent. Donc, le talent africain est reconnu. Les gens viennent chercher les talents, quel que soit le sport. Et ces jeunes partent très rapidement. Mais la question est, pourquoi est-ce qu'ils partent ? Ils partent parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour eux de développement. Et je ne me concentrerai pas juste sur le développement économique, c'est-à-dire la capacité de gagner assez d'argent pour nourrir sa famille, mais également d'opportunités d'apprendre. Par exemple, les Américains, lorsqu'on parlait de la NBA tout à l'heure, ont un système qui allie éducation et formation sportive.
Le système universitaire, le lycée, dès le plus jeune âge même.
Exactement. Donc, c'est ce manque d'opportunités-là et le manque de perspective à long terme pour ces jeunes fait que très rapidement, ils vont préférer se tourner vers une opportunité sûre à l'étranger plutôt que de prendre le pari de se développer localement.
Donc faire monter en compétences les professionnels du sport africain.
Exactement. Ça, c'est vraiment sur les... Donc, vous avez mentionné le livre tout à l'heure, Économie du sport en Afrique. Nous avons fait une enquête auprès de 2000 acteurs de l'écosystème du sport. Et c'est vraiment le deuxième, on va dire, la deuxième grande problématique qu'ils ont mis en avant, c'est le manque de compétences, mais de gestion. Donc on ne parle pas de compétences athlétiques ou on va dire d'encadrement des sportifs, mais vraiment en tant que dirigeant d'organisation sportive, quelle est votre capacité à développer une vision pour vos athlètes, mais aussi pour votre organisation? Quelle est votre capacité à pérenniser financièrement votre organisation pour qu'elle puisse croître? Et ce sont ces éléments-là qui manquent. Et une des recommandations du livre est justement d'investir dans les formations en management du sport.
Beaucoup de structures associatives dans le sport en Afrique. Ça veut dire que là aussi, il faut professionnaliser le secteur. On est encore dans l'artisanat?
Oui, et c'est d'ailleurs beaucoup un état d'esprit, et je crois que M. Galofal l'a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de changer le statut de toutes les organisations sportives, c'est changer l'état d'esprit dans la gestion de ces organisations-là pour créer de la pérennité. Et prendre un exemple concret, c'est l'aspect financier. Un dirigeant ou une dirigeante d'organisation sportive doit comprendre les enjeux financiers. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour attirer un investisseur ou un sponsor?
Aller chercher des sponsors, y compris au niveau local. On voit ça dans des clubs en France, par exemple. Même dans un village ou dans une petite ville, on va aller voir le supermarché du coin ou le commerçant du coin pour avoir quelques dizaines, quelques centaines, parfois quelques milliers d'euros.
Exactement. Mais ça demande à comprendre les enjeux de ce partenaire-là. Cette entreprise-là cherche à atteindre des objectifs en s'associant à un club sportif. Un des enjeux, par exemple, qui a été mentionné par M. Issa Sen, qui est le responsable sponsoring d'Orange en Afrique de l'Ouest, c'est la capacité des organisations sportives à comprendre que le besoin des sponsors n'est pas juste d'afficher une marque sur le stade, mais d'interagir avec les fans pour comprendre leurs besoins et ainsi faire évoluer leurs produits et services pour qu'ils puissent être, on va dire, commercialisés. Et ce niveau-là de compréhension n'existait pas encore ou très peu en Afrique.
Les conditions sont de plus en plus réunies avec une jeunesse africaine de plus en plus nombreuse, avec l'émergence de classes moyennes.
Vous avez la démographie qui est vraiment un point fort de l'Afrique. Donc ça, c'est une chose. Il y a bien sûr le talent sportif. Vous avez mentionné la classe moyenne, même si les grandes organisations, pour le coup, ne s'accordent pas sur le chiffre. Il y a vraiment de très grandes différences. Donc ce sont des éléments qui nous montrent que le sport est une opportunité de pratique et d'amélioration de la santé physique et mentale des Africains, mais aussi une opportunité de consommation. Et les Africains sont déjà consommateurs. Vous avez mentionné les médias tout à l'heure. Les Africains consomment, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de sports européens et pas de sports africains, ou très peu. 20% à peu près des droits sont dépensés sur les sports africains. On peut se poser la question, encore une fois, est-ce que le produit est assez bonne qualité pour que les Africains commencent à regarder les matchs locaux?
La Ligue des champions de foot en Europe accapare encore, enfin on parle du foot, mais il n'y a pas que le foot, voilà, les sports européens, voire américains peut-être aussi.
Exactement, par exemple le MMA, donc le sport d'arts martiaux, vous avez le championnat américain, l'UFC, vous avez 8 catégories de poids chez les hommes, 3 des 8 champions sont africains, camerounais et nigérians, alors même qu'il y a très peu de salles en Afrique. Donc le potentiel est là, mais il manque cette vision et cette capacité, encore une fois, d'articuler sport de masse, donner l'accès aux hommes et aux femmes de tous âges, et le sport d'élite.
On l'a entendu aussi dans le reportage, cette préoccupation d'éviter que les sportifs de haut niveau ne partent quasi systématiquement en Europe.
Exactement, en Europe, aux États-Unis, et surtout qu'ils partent sans revenir. Alors, dans le modèle, par exemple, de la balle dont on parlait tout à l'heure, les jeunes qui sont détectés et qui vont au Sénégal aujourd'hui parce qu'ils ont un potentiel, garçons et filles, on leur offre ensuite des bourses d'études, principalement aux États-Unis, étant donné, bien sûr, l'origine de la NBA. Mais souvent, ils ont des opportunités aussi de revenir au cas où ils ne feraient pas carrière. Et c'est ça qui est intéressant.
À ce propos, je voudrais que l'on écoute une sportive de haut niveau. C'est une judokate, elle est sénégalaise, Hortense Diédiou. Vous avez déjà souvent entendu parler d'elle. Elle a été 3 fois championne d'Afrique dans sa discipline. Elle a participé aux Jeux Olympiques et elle a décidé de développer la pratique de son sport dans son pays. Bonjour Hortense Diédiou.
Bonjour.
Où en est votre projet, ce centre de sport-études en Casamance, spécialement dédié au judo?
On a très 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 bien avancé. Il nous reste seulement la phase finition qui est un peu dure, faut le reconnaître, parce que ça demande beaucoup de moyens. C'est un peu difficile, mais ça a très 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 bien avancé.
Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là?
Aujourd'hui, je dirais ce qui me manque pour ouvrir, c'est les tatamis et les lits, l'ameublement.
L'objectif, c'est bien de former des jeunes sportifs sénégalais ou venus d'ailleurs, peut-être, en vue des Jeux Olympiques à Paris.
Oui, et pas seulement sénégalais, africains, parce que c'est un centre international, c'est un centre pour les sportifs africains de haut niveau. qu'ils puissent avoir un cadre adéquat, un cadre où ils peuvent aller à l'école, se soigner, avoir de bonnes infrastructures sportives pour les aider à s'améliorer au mieux et à aller chercher les médailles tant attendues dans le continent africain. Les médailles mondiaux, les médailles olympiques, qu'on n'en a pas beaucoup dans notre sport.
2024, c'est déjà presque un petit peu trop tard pour les former. Là, on est plutôt sur 2026 et la suite.
Oui, le centre, c'est un centre jeune. On va démarrer avec les jeunes qui vont se préparer pour Dakar 2026. Mais,
les Jeux Olympiques de la jeunesse.
Voilà, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais ce serait très, très bien de faire profiter ceux qui vont être en route pour Paris 2024. Car aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'a pas de centre en Afrique. On n'a pas de centre, ce qui fait qu'on vient aller à l'étranger pour se préparer. Et j'ai vécu tous ces différents facteurs-là en quittant le Sénégal pour venir en Europe. Il y a eu le froid, il y a eu la nourriture, il y a eu la culture. Pour moi, c'est des facteurs qui défavorisent un tout petit peu les sportifs africains pour être dans le bain tout de suite et se préparer au mieux, être prêt pour ces grands rendez-vous dont tous les sportifs rêvent, les championnats du monde, les Jeux olympiques, les grands rencontres sportives.
Les infrastructures, c'est ça qui manque en Afrique. On n'a pas suffisamment investi ces dernières années ou ces dernières décennies.
Aujourd'hui, oui, c'est mon constat personnel. On n'a pas assez d'infrastructures dans toute l'Afrique. Je vais dire l'Afrique noire pour pas trop toucher le Maghreb, parce que le Maghreb a quelques centres. En Afrique noire, on n'a pas de centre. Dans mon domaine, le judo, ça n'existe pas. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage.
Vous voyez quand même des infrastructures se créer autour du football, autour du basket, autour d'autres sports peut-être plus populaires que le judo en Afrique ?
Oui, malheureusement, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos élus, à nos responsables, qu'il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le basket. Il faut créer des infrastructures qui profitent à tous les sports. C'est bien beau de créer un stade de foot, hein. Oh, voilà, c'est nos frères sportifs. Mais vaut mieux mettre un stade multisport que d'en mettre un seul.
Vous diriez que le football n'est pas le seul sport qui peut être un levier économique qui peut créer des emplois, attirer des investissements pour les jeunes ?
Oui, c'est pas que dans le foot, dans tous les sports, on peut créer des leviers. Comme j'ai l'habitude de le dire, le sport est un facteur fédérateur, est un facteur rassembleur et c'est une réinsertion sociale pour certains jeunes. Moi, personnellement, de mon cas, c'est grâce au sport que j'ai nourri ma famille, que j'ai permis à mes frères et sœurs d'aller à l'école très haut niveau. Donc, c'est pas que dans le foot, il faut viser large. Il faut viser large.
Votre centre de sport-études, par exemple, vous comptez créer combien d'emplois ?
Dans un premier temps, on part à une trentaine. Si, à l'approche de 2026, on voit qu'on grossit, on sait qu'on peut faire plus qu'une centaine d'employés au niveau du centre. Dans un espace d'un hectare ou de 2 hectares de terrain, on peut accueillir même le foot, le basketball, tous ces sports-là, en fonction de ce que tu as envie d'être. Si tu as envie d'être vraiment un sportif de haut niveau, gagner des médailles, ou si tu as envie seulement d'y travailler et de devenir cadre dans le sport, ou de trouver un emploi pour ne pas être à la rue.
Dernière question, Hortense Diédio, devenir entrepreneur dans le sport, comment ça s'est passé pour vous ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontée ?
Alors, la première difficulté, c'est du fait que je n'ai pas fait d'école de haut niveau. Mais j'ai voulu toujours me battre pour réussir et aider les autres. Je suis issue d'une famille où on fait beaucoup le social. Mon grand-père avait que 3 enfants, ils étaient 20 dans la maison. Ma mère a que 3 enfants, on est 15 à la maison. J'ai hérité, je pense, de cette entre-aide-là, ce qui m'a permis de mettre en place une association pour aider les gens, les jeunes de chez moi. Notamment de contribuer un peu dans ma région, la Casamance, qui a vécu une crise politique depuis 82. Et je me suis dit, tu aides, oui, mais tu aideras mieux si tu mets en place une société ou une entreprise.
Merci Hortense Diédio.
Merci à vous. À très bientôt.
À très bientôt, en effet, Hortense Diédio, judokate sénégalaise, en train donc de créer un centre de sport-études en Casamance. Mohsen Abdel Fattah, directeur général de l'Institut des sports et des industries créatives en Afrique, coordinateur d'un ouvrage sur l'économie du sport en Afrique, est avec nous dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Comment vous réagissez à ces propos? Grande énergie, peu de moyens, le problème central du manque d'infrastructures, donc du manque de financement.
Première chose, c'est que ça me réjouit beaucoup de voir une jeune femme qui a une belle carrière et qui revient au pays pour améliorer les choses. Et j'ai vu beaucoup d'athlètes de ce niveau qui reviennent, quel que soit le pays. Et je pense qu'ici, il y a deux choses qui ressortent de mon côté. Elle a parlé du judo, donc qui est un sport de niche. Mmh. La question ici, est-ce que, à quel point est-ce que les Sénégalais ou les Africains en général sont même en contact avec ces sports-là? Donc le football, ils connaissent le basket maintenant de plus en plus. Et ces sports-là, le seul moyen pour eux d'avoir accès, c'est l'école. Donc là, c'est un aspect aussi qu'il faut discuter, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir le sport en donnant accès à l'école. Et comme des grands efforts sont faits en Afrique pour scolariser un maximum d'enfants, aujourd'hui, un enfant sur deux est scolarisé jusqu'au bout de la primaire. Donc, si on scolarise plus d'enfants et que le sport fait partie du curriculum, là, ce sera une opportunité de mettre en valeur ces disciplines-là. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est que le judo est un sport traditionnel japonais. En Afrique, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de sports traditionnels. Le Sénégal, par exemple, a une lutte sénégalaise, en fait, a plusieurs luttes, mais qui a été codifiée pour être appelé aujourd'hui lutte, donc avec frappe si vous mettez des coups, ou sans frappe, qui ressemble plus à une lutte traditionnelle. Et ce sport-là est a beaucoup de succès au Sénégal, puisqu'il remplit non seulement les stades, les grands stades de foot, mais ils ont réussi aujourd'hui à lever assez de fonds pour construire leur propre stade, qui accueille 27 000 personnes. Il y a un aspect très intéressant que le professeur Zebelinga, un sociologue camerounais, a mentionné dans le livre, c'est le concept sporturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'un sport intègre des aspects culturels. Et ces aspects culturels-là attirent la population, et notamment dans la lutte sénégalaise, où vous n'avez pas non seulement le combat, mais vous avez de la danse, une joute verbale, de la magie. Et tous ces éléments-là attirent le spectateur et font que le spectateur dépense et permet au sport de se développer.
C'est ce que disait Hortense Diédio, hein. Diversifier les pratiques sportives, il ne faut pas qu'il n'y en ait que pour le football, viser large.
Exactement, viser large, donner accès aux jeunes à travers l'école et mettre en valeur les particularités culturelles africaines dans la création de nouveaux sports ou dans la pratique de sports existants.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, spécial sport cette semaine. Et on parle du sport roi. Tout de même, le football, Mohsen Abdel Fattah, inflation générale sur les moyens déployés en Afrique, y compris dans la construction de stades, celui de Dakar, par exemple, construit récemment.
Oui, alors je serais un peu plus mitigé là-dessus, c'est-à-dire que le football est clairement le sport roi en Afrique. Il y a vraiment une concentration sur les très grands clubs. Et donc il y a vraiment une très grosse différence entre les grands clubs africains et le reste. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une désarticulation entre le sport d'élite et le sport de masse. Ce qui fait que la plupart des initiatives sont faites pour mettre en valeur les grands clubs, mais appauvrissent en quelque sorte les petits clubs.
Ou les équipes nationales, en l'occurrence pour le Sénégal.
Exactement. Donc ça, c'est un aspect qui est très important à noter. Pour ce qui est du football en Afrique, et j'ai eu la chance de participer, d'assister à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qu'on voit beaucoup, c'est que le spectacle est là, c'est-à-dire la qualité des joueurs est là, et la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui est la deuxième compétition continentale la plus suivie, donc après l'Euro, et devant la Copa América, ce qui veut dire que le talent est reconnu, la qualité est reconnue. Par contre, la problématique est dans l'organisation, c'est-à-dire que les stades sont construits, mais pas dans une vision à long terme dans laquelle le stade n'aura pas juste une utilité pour ce tournoi-là, mais aura une utilité après la compétition. Et c'est souvent ce qui manque, ce qui fait que des investissements sont mis sur la table, mais à moyen terme, déjà, n'ont plus d'utilité.
La Coupe du Monde en Afrique du Sud a été un déclencheur. De ce point de vue-là, on est capable d'organiser une grande compétition internationale, d'y mettre des moyens et de gagner de l'argent?
Oui, alors c'est justement une des études de cas du livre dédiée à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et on voit deux choses. Donc l'aspect positif, c'est sur, on va dire, la croyance que l'Afrique peut proposer un spectacle de qualité et attirer le monde entier. Donc ça, on le voyait déjà avec la qualité des joueurs, mais là aussi dans la qualité de l'organisation. Par contre, l'étude qu'on a faite montre que les retombées, même en Afrique du Sud, qui est quand même un pays très avancé sur le continent, sûrement le plus avancé, les retombées sont minimales. Donc il y a aussi encore beaucoup de réflexions à faire sur comment, et peut-être que les JO de la jeunesse au Sénégal en 2026 permettront peut-être justement d'expérimenter là-dessus et de créer vraiment des tournois ou des compétitions pérennes.
Puisque vous parlez de la CAN de football au Cameroun, récemment, la dernière édition, d'un point de vue économique, elle a permis quelques investissements locaux, exemple à Garoua, dans le nord du pays, qui a accueilli plusieurs matchs, rénovation du stade, de certaines routes, un nouvel hôtel. Écoutez le maire de la ville, le docteur Ousmaïla Mohamedou, rencontré par Amélie Tullet du service Afrique de RFI.
Déjà par les travaux lors des chantiers de ces différentes infrastructures, les fils de Garoua annoncent bénéficier pour l'exécution de ces chantiers, mais également dans le cadre de la fonctionnalité de ces infrastructures, et l'embellissement de la ville, la communauté urbaine a contribué à densifier l'éclairage pour permettre non seulement d'embellir davantage la ville, mais également la lutte contre l'insécurité, mais aussi la création des activités économiques le soir, parce que le soir c'est devenu comme si c'est le jour, tellement que toute la ville est éclairée. Mais aussi la propreté, parce qu'il est question de rendre la ville suffisamment propre. Et ça, nous nous sommes engagés à maintenir cette propreté avant, pendant et après la CAN.
Vous parliez tout à l'heure de la porosité entre le sport et les autres activités. Là, c'est vraiment ça. Hein. Une compétition sportive a permis d'améliorer la vie des gens, au moins au niveau local, selon le maire de cette ville.
Et d'ailleurs, toutes les grandes compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques, ont une équipe dédiée au patrimoine, à l'héritage. Quel héritage va laisser cette compétition? Alors là, je suis. Alors c'est vrai que c'est très positif. Toutes les, on va dire les caractéristiques qui viennent d'être décrites, l'impact sur la propreté, c'est vraiment très positif. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et il y a un exemple à mentionner qui est celui du Rwanda. Mmh. Et alors on parle beaucoup du Rwanda par rapport à son association assez innovante avec des clubs de football.
On va en parler dans quelques minutes.
Tout à l'heure. Mais là, j'aimerais parler d'un aspect intéressant, c'est le tourisme sportif. C'est-à-dire comment est-ce que le pays se dit on a une opportunité d'être une vitrine au monde et comment est-ce qu'on peut développer un ou plusieurs secteurs économiques sur cette base-là, et le tourisme en est un pour des pays africains qui ont souvent de superbes paysages, des cultures intéressantes à offrir à des Africains ainsi qu'à des touristes non africains.
L'investissement, il vient aussi des diffuseurs, hein, des droits audiovisuels qui sont versés à chaque compétition. Dans quel sport est-ce que ça progresse sensiblement en Afrique ?
Alors, ça progresse dans plusieurs disciplines, notamment les grands sports comme le football, le basketball, mais aussi dans d'autres. Mais si vous voulez, le marché est assez concentré en Afrique des diffuseurs. Vous avez 5 grands diffuseurs et ils mettent en compétition les tournois locaux, donc africains, les championnats locaux, avec des grands championnats occidentaux. Donc, il y a toujours cette comparaison qui est faite en termes de qualité. Est-ce que le diffuseur a plus intérêt à diffuser des championnats locaux ou internationaux? Donc là, on revient à la problématique décrite tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut créer un produit de qualité? Et là, les médias jouent un rôle, puisque votre rôle n'est pas juste d'informer la population, mais aussi de mettre en valeur un spectacle et donner l'opportunité aux spectateurs de se connecter avec les athlètes, pas juste pendant la compétition, mais avant et après, et ainsi permettre, aux grands groupes d'investir beaucoup plus dans les matchs africains.
On a des grands groupes audiovisuels qui commencent à investir sur le sol africain, en Afrique du Sud, par exemple.
Bien sûr, vous avez Supersport, par exemple, donc vous avez un acteur chinois qui est arrivé, vous avez Bein qui est arrivé également, donc le potentiel est là, et je vois de plus en plus de ligues européennes, de clubs européens venir aussi, et pas seulement chercher des talents, mais aussi chercher des fans en Afrique. Donc le potentiel est reconnu.
Eh bien justement, on va aller au Rwanda, le Rwanda qui investit énormément pour des compétitions, mais aussi via des partenariats, et pas avec n'importe qui. Le Paris Saint-Germain, qui est un des plus grands clubs d'Europe de football, l'un des plus riches en tout cas, a ouvert dans le sud du pays une académie pour former des jeunes footballeurs. C'est un reportage de notre correspondante au Rwanda, Laure Broulard.
Comme tous les jeudis, Charmant, 12 ans, vient s'entraîner sur la pelouse synthétique du stade de Houye dans le sud du Rwanda. C'est là qu'a ouvert en novembre 2021 une académie de football du club Paris Saint-Germain.
Je veux être une footballeur professionnelle et jouer aussi en grande équipe de Paris Saint-Germain.
Qu'est-ce que tu as appris ici que tu ne connaissais pas avant ?
C'est communiquer avec les autres dans le terrain, et dribbler.
L'académie forme 184 jeunes de 6 à 15 ans sélectionnés dans des écoles de la région de Houillé. Objectif, créer les talents de demain et booster le football national. Théonas Ndangouza, directeur de l'académie.
C'est un sport qui est vraiment aimé, mais nous avons besoin de structurer ce sport. Et je pense qu'avec le temps, il y a la volonté politique de différentes institutions qui veulent investir au football des jeunes. Donc je pense qu'avec le temps, on aura vraiment des bonnes équipes.
Sur le terrain, une trentaine de garçons et de filles perfectionnent leurs passes et leurs tirs au but. Tous portent des maillots du PSG flambant neuf, flanqués du logo « Visitez le Rwanda ». Car si l'académie a ouvert, c'est parce que depuis 2019, Kigali sponsorise le PSG à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. En échange, le club parisien fait la promotion du tourisme au pays des mille collines. Un partenariat similaire a été signé avec le club anglais Arsenal. Une stratégie controversée pour un pays où 40% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, mais défendue par Ariela Kageruka, directrice du tourisme au bureau du développement rwandais.
La première année de notre partenariat avec Arsenal, nous avons eu de très bons résultats. Le nombre de touristes venant d'Europe a augmenté de 22% et de Grande-Bretagne de 17%.
Selon l'analyste économique Teddy Kaberuka, le sport fait surtout partie d'une stratégie globale visant à faire du Rwanda un centre de conférences et d'événements internationaux.
L'État a investi énormément dans le développement des infrastructures sportives, l'accès aux différents sports qui n'ont jamais été développés dans l'histoire du Rwanda, notamment par exemple le cyclisme et d'autres disciplines aussi qui attirent plus les événements, qui attirent aussi les touristes.
Inauguré en 2019, le stade de basketball Kigali Arena accueille par exemple des compétitions continentales, tandis que côté cyclisme, le pays se prépare à accueillir les mondiaux de 2025, une première sur le continent africain. Laure Broulard, de retour de Houillé, RFI.
Mohsen Abdel Fattah, les grands clubs européens, poule aux œufs d'or pour le sport en Afrique ?
Alors oui, poule aux œufs d'or, c'est-à-dire...
PSG, Arsenal aussi. Et...
Exactement. Je pense que l'intérêt pour ces clubs-là est de profiter du capital démographique africain dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rwanda est un des pays les moins peuplés d'Afrique. On pourrait s'imaginer que ces clubs-là aillent au Nigeria, par exemple, en Éthiopie, en Égypte, qui ont plus de 100 millions d'habitants chacun. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent aussi à développer une relation à long terme et ils cherchent en quelque sorte une plateforme africaine et le Rwanda offre cela, c'est-à-dire des dirigeants politiques qui intègrent le sport à leur vision, à leur politique stratégique, déclinée bien sûr en termes d'image, puisque le Rwanda a souffert beaucoup, a souffert d'un grand déficit d'image.
Le sport pour changer l'image négative d'un pays.
Et puis aussi sur des bases saines, c'est-à-dire que le Rwanda a beaucoup investi sur l'éducation. Vous avez par exemple beaucoup de jeunes femmes qui dirigent des organisations, des grandes organisations au Rwanda. Donc ça, c'est mis en valeur. Vous avez une grande pratique sportive qui s'est développée. Et pas seulement dans les sports traditionnels du Rwanda, mais ils ont intégré aussi beaucoup de nouveaux sports de pays voisins. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a un point qui est très, très intéressant, ce qui est le lien entre sport et environnement. Ils créent, par exemple, un dimanche sur deux à Kigali, une partie de la ville est bloquée à la circulation pour organiser des événements sportifs accessibles à tous. Donc, c'est vraiment cette articulation-là entre sport et résolution de grands défis qui fait que le Rwanda est aujourd'hui considéré comme le pays le plus avancé et c'est reconnu par les grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou Arsenal.
Dans le cas du Rwanda, un engouement pour le cyclisme. D'ailleurs, les championnats du monde de cyclisme vont être organisés au Rwanda dans quelques années.
C'est vraiment une très très belle nouvelle, sachant que c'est un sport considéré comme traditionnel au Rwanda. C'est un sport qui est pratiqué depuis longtemps et les Rwandais sont performants. Performant dans l'organisation et performant en tant qu'athlète. Et c'est vraiment la plus belle des compétitions, plus belle des opportunités d'accueillir ce genre de compétition.
Ça veut dire que d'autres pays sur le continent pourraient s'inspirer du Rwanda et accueillir des partenariats avec d'autres grands clubs européens en foot ou dans d'autres sports ?
Bien sûr, lorsque vous pensez au Kenya et à l'Éthiopie, qui sont vraiment des mastodontes de la course de fond. Pourquoi pas organiser les championnats du monde d'athlétisme ? Vous avez l'Égypte avec le handball et le squash, par exemple. Vous avez beaucoup de pays africains qui sont performants dans une discipline, mais il faut construire un écosystème autour pour pouvoir proposer ou accueillir, on va dire, de grands tournois.
Il ne faut pas oublier non plus, parfois, des problèmes de gouvernance, des accusations de corruption dans des fédérations sportives. Ça retarde le développement du sport sur le continent.
Exactement. Je lis toujours ce point-là à la problématique de la compétence. Pour moi, la gouvernance est une compétence, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des processus à mettre en place pour que les investisseurs se sentent à l'aise d'investir dans votre organisation et que vous, en tant que dirigeant, vous donniez une transparence aux investisseurs ainsi qu'à vos consommateurs, on va dire, les fans et les pratiquants de sport.
Plus vite, plus loin, plus fort pour le sport africain. Merci Mohsen Abdel Fattah.
Merci beaucoup Bruno.
Directeur général de l'African Sports and Creative Institute, c'est en anglais, Institut pour les sports et les industries créatives en Afrique. Vous avez donc coordonné l'écriture de cet ouvrage que je tiens entre mes mains, Économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités, paru aux éditions Economica avec les contributions de grandes voix économique en Afrique. On a évoqué tout à l'heure Tidjane Thiam qu'on a reçu dans cette émission il y a quelques mois, Vera Songwe ou encore Makhtar Diop et puis Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'économie africaine que vous suivez au quotidien sur notre antenne et sur notre site. Tous les matins, Afrique Économie, reportage avec nos correspondants et nos spécialistes. Avec la numérisation, on parle de plus en plus souvent de cybersécurité. Et ça tombe bien, les 9 et 10 mai prochains, un événement majeur en Côte d'Ivoire avec les principaux acteurs de ce secteur. Son commissaire général, Franck Kié, nous en dévoile les enjeux au micro d'Olivier Roger.
Bonjour Franck Kié.
Bonjour Olivier.
Vous organisez le Cyber Africa Forum dans quelques jours à Abidjan. C'est la deuxième édition. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Nous attendons de recevoir les décideurs publics et privés clés en Afrique sur les questions de cybersécurité et de sécurité numérique pour trois choses principales. La première, c'est pour pouvoir discuter des problématiques de ce secteur et de proposer des solutions concrètes afin de renforcer la sécurité numérique des différents acteurs économiques du continent. La seconde, c'est de pouvoir créer une communauté d'affaires. Et la troisième, c'est pour permettre justement à ces différents acteurs d'échanger, de se rencontrer et de pouvoir contribuer à la structuration de l'écosystème cybersécurité en Afrique.
Les entreprises de cybersécurité sont souvent assez discrètes. Quelles sont les entreprises africaines présentes dans ce domaine de la cybersécurité et qui apportent aujourd'hui des solutions ? Est-ce qu'on peut citer quelques noms, citer quelques boîtes emblématiques ?
Bien sûr. Alors aujourd'hui, il y en a de plus en plus d'ailleurs et nous sommes très heureux et très fiers de voir que certaines d'entre elles nous accompagnent. Je pense notamment à Cibastion, à CCDoc, à Data Protect, qui sont des entreprises
marocaines,
exactement, ivoiriennes, sénégalaises, béninoises. Donc ce sont des entreprises qui commencent à monter de plus en plus et qui se positionnent très clairement comme des acteurs clés et de référence sur le continent.
Je suis une banque installée en Afrique, j'ai besoin de cyberprotection. Qu'est-ce qui me pousserait à aller plutôt vers un acteur africain que vers un acteur américain, par exemple ?
Je pense qu'une des raisons principales et qui pourrait être la plus évidente est qu'un acteur africain sera peut-être un peu mieux au fait des réalités auxquelles vous faites face et pourra donc un peu mieux vous accompagner et connaître les solutions qui seront les plus adaptées pour votre entreprise et pour votre environnement.
Une meilleure connaissance de terrain, est-ce que pour autant les entreprises africaines de cybersécurité ont les reins suffisamment solides ?
Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés. À titre personnel, je reçois plusieurs dizaines de CV par mois de personnes qui cherchent des opportunités, qui cherchent à rentrer sur le continent.
Oui, parce qu'il faut préciser que vous êtes un spécialiste de cybersécurité avant d'être un organisateur de salon.
Exactement, c'est ça. Donc, je suis le premier Africain diplômé du Master en cybersécurité de New York University. J'ai également mon propre cabinet. Et voilà, les entreprises africaines investissent de plus en plus massivement. Après s'être développé parfois sur un modèle de joint venture avec des partenaires occidentaux afin de pouvoir bénéficier de leur transfert de connaissances. Aujourd'hui, ces entreprises ont de plus en plus de capacités technologiques, mais aussi financières pour pouvoir investir et créer leurs propres infrastructures qui va aussi dans le sens du renforcement de la souveraineté numérique qu'on cherche à promouvoir sur le continent.
L'écosystème existe, les besoins aussi existent. Est-ce que, à votre avis, les entreprises africaines africaines, les administrations africaines, les banques africaines sont suffisamment protégées contre les cybercriminels aujourd'hui?
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Plusieurs exemples dans le monde entier nous montrent aujourd'hui qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ces types de questions et de problématiques. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et que nous allons de plus en plus vers plus de protection.
Les dirigeants d'entreprises africains ont parfois le sentiment illusoire d'être protégés, c'est-à-dire qu'on voit les hackers du monde entier s'attaquer à des entreprises russes, chinoises, américaines. Les Russes sont souvent victimes eux-mêmes des hackers, on ne le dit pas suffisamment. Et les Africains, les entreprises africaines ont le sentiment d'échapper un petit peu à ce courant mondial de cybercriminalité. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est une fausse illusion?
Non, effectivement, je vous confirme. C'est vrai que pour avoir échangé l'année dernière avec des acteurs sur le continent, la plupart d'entre eux ne se sentaient pas ciblés ou visés. Mais je peux vous dire et je peux vous assurer que depuis quelques mois, on constate en tout cas un vrai shift, un vrai changement dans ce paradigme avec une prise de conscience. Certains d'entre eux qui ont même été attaqués et qui se rendent compte qu'ils sont des cibles et qu'il y a vraiment cette idée qui est en train de changer, qu'ils deviennent des cibles également prioritaires des cybercriminels.
Il y a une prise de conscience, dites-vous. Pour autant, vous-même, vous citez sur la page web de votre site qu'à peine 20% des pays ont un cadre légal satisfaisant pour combattre la sécurité. On a l'impression que cette prise de conscience a encore du retard, du moins du point de vue des gouvernants.
Alors, je pense qu'il faut prendre les choses pas à pas. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui à peu près 20% des pays africains qui ont un cadre légal, mais les choses vont dans la bonne direction. Aujourd'hui, de plus en plus de pays africains ont des agences nationales de cybersécurité, ont des cadres législatifs pour se protéger contre la cybersécurité et investissent localement pour pouvoir renforcer leur cybersécurité. Il y a quelques semaines, lors du sommet de Lomé sur la cybersécurité, plusieurs pays africains, une vingtaine ou une trentaine à peu près, ont adopté une déclaration qui va dans le sens de promouvoir la cybersécurité et la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité de Malabo. Donc ça va dans cette direction. Et si je ne prends que l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est le pays dont je suis originaire et que je connais bien, en décembre dernier, le gouvernement ivoirien a annoncé l'intention d'investir environ 30 millions d'euros pour renforcer la cybersécurité sur le continent avec la création d'une agence nationale de cybersécurité et d'un conseil national de cybersécurité.
Est-ce que la cybercriminalité en Europe ou en Amérique et la cybercriminalité en Afrique sont les mêmes ?
En Afrique, la cybercriminalité était de façon originelle connue comme l'arnaque au sentiment, les chantages avec les brouteurs en Côte d'Ivoire ou au Nigeria qu'on a bien connu. Mais aujourd'hui, les cybercriminels africains utilisent aussi et de plus en plus de ransomware. On voit de plus en plus d'extorsions en ligne, d'arnaques aux faux virements, ce genre de choses-là. Donc on voit qu'il y a une certaine professionnalisation.
Est-ce que les sites de e-commerce africains, et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux, est-ce qu'ils sont menacés aujourd'hui par les cybercriminels en Afrique?
Oui, bien sûr. J'ai eu et personnellement été approché par plusieurs personnes qui ont des pages Instagram, des pages sur des sites de e-commerce ou sur Internet qui ont été victimes de cyberattaques et dont l'activité a été totalement stoppée du jour au lendemain parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir accès à leur plateforme. Et pour un site de e-commerce, ne pas avoir accès à sa plateforme, ben en fait, ça veut dire que votre business, en fait, il est mort. Et je pense que ces acteurs-là commencent à se rendre compte du danger auquel ils font face.
Beaucoup d'Africains utilisent les crypto-monnaies et certains téléchargent des portefeuilles nigérians, ivoiriens, sénégalais. Est-ce que les entreprises qui proposent ces wallets, qu'elles soient africaines ou internationales, protègent suffisamment ces clients?
Je pense que ces entreprises sont obligées d'une certaine façon de le faire parce qu'à partir du moment où vous gérez l'argent de certaines personnes, vous êtes obligé de mettre en place certaines réglementations et certains processus pour les protéger. Aujourd'hui, par contre, je pense que le monde des crypto-monnaies est un monde qui échappe encore un peu au système financier traditionnel, géré par les banques centrales.
Avec la compliance, avec les règles de protection.
Exactement. Toutefois, je pense que de façon originelle, ces plateformes ont intérêt et cherchent en tout cas à protéger au maximum leurs utilisateurs parce qu'il en va quand même aussi de leur crédibilité.
Merci beaucoup Francky et plein succès pour le Cyber Africa Forum d'Abidjan.
Merci beaucoup Olivier.
Olivier Roger avec Franck Kier, le commissaire général du Cyber Africa Forum. C'est à Abidjan les 9 et 10 mai prochains. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, restez prudents et connectés. On bavarde sur les réseaux sociaux, sur notre compte RFI Echo, Twitter et Facebook. L'info revient dans quelques secondes sur RFI. Portez-vous bien.
Echo d'ici, Echo d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.